Lecture pour vous. Des romans roses à écouter dans le noir. Une émission conçue et réalisée par Fernand Bailac. Sur CFM, tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Amis auditeurs, lecteurs assidus ou occasionnels, retrouvez avec Lecture pour vous le plaisir de vous faire raconter une belle histoire, comme quand vous étiez petit avant de vous endormir. Coup double, Edgar d'Orsay, deuxième épisode. Résumé des chapitres précédents. Décidément, la police de Nice a bien du travail. Encore un casse de banque, dont les coffres ont été pillés grâce à une opération technique parfaitement réussie. Télésurveillance neutralisée, intrusion dans la salle des coffres par les systèmes d'aération, sans compter l'original procédé de perçage des blindages à l'aide d'azote liquide. Le commissaire Béranger est sur un gros coup. Si seulement il n'était pas débordé par tous ces petits vols et ces minables braquages d'amateurs quotidiens. On dirait que même les honnêtes citoyens s'y mettent. Comme ce Serge Bruand, ingénieur en travaux publics, sans antécédent jusqu'ici. Chapitre 3, Serge. Pendant ce temps-là, Serge, vous savez, Serge Bruand, le gars qui a été arrêté le dimanche matin, fut présenté le mardi suivant à la juge d'instruction en présence d'un avocat commis d'office. En fait, une jeune avocate qui avait lu le dossier juste avant. Ils n'eurent que peu de temps pour préparer la rencontre avec le juge. L'affaire passait au flagrant délit. Dans sa simplicité, le dossier était accablant et lamentable, vu la situation matérielle et la vie sans histoire jusque-là de ce type. L'avocate avait du mal à comprendre les motivations de Serge, et elle pensait qu'il vaudrait mieux plaider le coup de la folie. C'était vraiment un client pas ordinaire pour elle, habituée déjà à défendre les petits voyous et les demi-sels du milieu marseillais et toulonnais. Il ne correspondait en rien au profil des gangsters débutants et des délinquants primaires qui se font la main dans des attaques minables, mais parfois sanglantes, de station-service. La juge d'instruction eut exactement la même impression et ne put s'empêcher de quelque compassion pour le jeune homme. Ce qui la gênait le plus, c'était son absence de défense et la médiocrité de ses motivations. Par moments, il paraissait comme étranger à sa propre histoire. Il passa environ 2 semaines de préventive jusqu'à son procès, qui se déroula d'une façon expéditive, noyé au milieu d'autres affaires de délinquance primaire, vol de voiture, vol à l'arraché, petit cambriolage, et une affaire de carjacking qui fut jugée juste après lui. L'avocate insista sur le caractère amateur de cette tentative de braquage presque puérile. Absence d'armes réelles, absence de violence sur la personne du gérant, coopération avec la police, absence d'antécédents judiciaires. Néanmoins, Serge écouta avec surprise un réquisitoire demandant l'exemplarité de la sanction pour dissuader les petits bourgeois de s'improviser gangsters et pour lui donner une bonne leçon. Il entendit prononcer une peine d'1 an de prison, le minimum de la loi, ramené à 9 mois de détention effectif et assorti d'une mise à l'épreuve de 1 an. L'avocate commise d'office lui parut très satisfaite et lui assura que dans 6 mois il sortirait. Il fut transféré immédiatement au centre pénitentiaire de Draguignan où il devrait passer tout le reste de l'année en principe. En fait, et comme le lui avait annoncé son avocate, il n'y resta que 6 mois, bénéficiant d'une remise de peine due à sa conduite exemplaire et particulièrement docile envers l'administration et les surveillants. Un détenu exemplaire, quoi. Jamais de visite au parloir, excepté les 6 rencontres qu'il eut avec son avocate en début de chaque mois. La cohabitation avec les autres détenus fut néanmoins assez difficile, surtout dans les premiers temps, jusqu'à ce qu'on lui fasse une réputation d'intellectuel perdu dans ce milieu tellement différent de ses fréquentations et de sa classe sociale. Les autres le considéraient comme un cas à part et ne lui parlaient pratiquement pas. Il passait ses journées à lire Le Monde, à regarder un peu de télévision au foyer et à jouer aux échecs tout seul. Il fréquentait assidûment la bibliothèque du centre. Il ne travaillait pas à l'atelier. Il cantinait tant bien que mal avec de l'argent que lui transmettait chaque mois son avocate. Celle-ci d'ailleurs fut très étonnée par une demande que Serge lui fit à la fin du procès. Elle devait téléphoner à un certain numéro à Paris pour obtenir une rémunération de ses prestations et lui transmettre des informations personnelles orales. La correspondante, qui préféra garder l'anonymat, lui raconta que tout allait pour le mieux et que les retrouvailles se passaient bien. Elle voulait savoir comment allait Serge et combien de temps il resterait incarcéré. Ce fut tout. Elle demanda aussi le montant des honoraires. L'avocate fut bien heureuse de recevoir dans son courrier du surlendemain un colis anonyme posté à Paris avec une somme d'argent assez importante pour payer ses prestations et fournir à son client, tous les mois, l'argent nécessaire à sa subsistance en prison. Elle ne chercha pas l'origine de cette générosité, comme le lui précisait d'ailleurs un mot d'accompagnement. Aussi, quand elle voulut interroger Serge à ce sujet, il parut tout étonné et éluda les questions. L'avocate se le tint pour dit et profita des largesses du colis sans chercher à comprendre. Bien sûr, c'était au LIA. Pendant les 6 mois de prison, Serge eut en permanence en tête l'angoissante obsession de cette pauvre Olia. Que devenait-elle? Où était-elle désormais? En prison ou en cavale? Olia, son amour, sans qui cette affaire n'aurait jamais eu lieu.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qui Ils se ressemblent trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 4, Olia. Olia Souliakov était une solide et grande brune de 28 ans, aux yeux gris-bleus, native de Kiev en Ukraine, née de parents russes. Son père, militaire en Crimée, avait été porté disparu pendant la guerre d'Afghanistan. Sa mère et elle vivotaient de la maigre pension militaire, pendant que Olia faisait ses études de comptabilité et de droit à l'université de Kiev. Pendant ses études, elle avait appris par ailleurs à parler parfaitement le français. Elle rencontra un Biélorusse dont elle tomba amoureuse et qui lui laissa une adorable petite fille, Tatiana, en cadeau d'anniversaire pour ses 20 ans. Le Biélorusse partit un jour sans donner de nouvelles et les abandonna toutes les trois. La maigre pension militaire ne pouvait subvenir à leurs besoins et Olia se résolut à interrompre sa formation d'avocate pour trouver directement du travail, en confiant Tatiana à sa mère. Comme tant d'autres, elle aurait bien aimé faire fortune à l'étranger, à l'ouest. Elle se fit recruter par une agence de travail pour le compte d'une société d'import-export basée à Odessa, qui avait une succursale à Nice, en France. Le poste était très bien payé, et elle finit par accepter, la mort dans l'âme, de devoir quitter sa petite fille et sa mère pour pouvoir leur venir en aide. Elle aurait une charge de comptable et de secrétaire basée à Nice pour une durée de 5 ans. Elle ne rencontra jamais directement le directeur de cette société, mais uniquement sa secrétaire générale, une Française, toujours dans des halls d'hôtels internationaux. Elle conversait uniquement en français. Ce fut elle qui s'occupa de lui accélérer l'obtention du passeport, des visas professionnels, de lui offrir le billet d'avion et une avance sur salaire qu'elle laissa à sa mère. Elle fit le voyage, accompagnée d'un cadre de la société, qui ressemblait plutôt à un garde de corps patibulaire avec ses lunettes de soleil. À l'arrivée à Nice, une Mercedes noire les attendait avec 2 hommes à bord, en costume sombre et lunettes noires. Ils la contraignirent à leur remettre sans ménagement ses papiers d'identité, son argent et son passeport. Elle comprit alors brutalement qu'elle était tombée dans un traquenard et un réseau de prostitution comme ceux dont on parlait à mots couverts dans les milieux étudiants de Kiev. Elle fut prise de panique et tremblait de tous ses membres, avant même d'être arrivée à la villa somptueuse qui dominait la ville entre Nice et Villefranche. Pour ce qu'elle en vit dans son grand trouble, elle aperçut des paysages et des constructions magnifiques qui correspondaient à la Côte d'Azur rêvée, paradis des tsars et de la cour impériale. Elle fut immédiatement reçue par le chef du réseau dans un bureau d'où on pouvait apercevoir les scintillements de la mer au loin. C'était, lui aussi, un Ukrainien, du nom de Oleg, à peu près de son âge. Il lui parut aussitôt très antipathique. Il lui expliqua la situation dans leur langue maternelle, et elle ne cessait de pleurer et de gémir en l'écoutant. Le réseau de prostitution de luxe dont il avait la charge comprenait 18 callgirls, pour la plupart ukrainiennes et lettones, particulièrement belles, et expertes à satisfaire une clientèle à très haut niveau de revenus et d'exigences. Elles opéraient dans des immeubles appartenant à l'organisation, situés dans le même quartier de Nice que la villa. Elles vivaient, regroupées, toutes là, sous la surveillance permanente d'un des 4 hommes de main. Son accompagnateur de voyage assurait la liaison avec le siège social à Odessa. Olia, elle, n'était pas destinée à augmenter le nombre de filles en activité, quoique s'il n'avait tenu qu'à lui, mais à l'aider à gérer la comptabilité et les transactions bancaires qui permettaient à l'organisation de blanchir et de rapatrier les fonds importants dus à cette activité criminelle jusqu'en Ukraine. Il lui fallait aussi une intermédiaire parlant parfaitement le français pour effectuer les démarches administratives. Et surtout, crédibiliser la couverture de sociétés d'import-export qu'il était censé représenter dans ses rapports avec l'administration et les autorités locales. Pendant toutes ces explications, qu'elle écouta de plus en plus abasourdie, et comme en état de choc, elle observa la présence discrète et décontractée de son accompagnateur, assis dans un coin du bureau, qui prenait des notes sur les explications fournies à la nouvelle recrue. Visiblement, il s'assurait que les consignes étaient bien passées et observait la façon dont elle acceptait son sort pour en témoigner auprès des patrons. À l'attitude de Oleg, elle comprit que celui-ci lui-même était surveillé et contrôlé par son accompagnateur. D'ailleurs, le personnage intervint, en ukrainien, pour lui ordonner de continuer les explications et de préciser le rôle à Olia. Effectivement, quelques instants plus tard, Oleg lui expliqua avec quelques réticences qu'en fait, elle tiendrait une comptabilité double de la sienne pour vérifier et contrôler séparément les flux d'argent captés par le réseau. Le dispositif de deux vérificateurs indépendants était une mesure de sécurité exigée par le siège. De plus, Olia, en professionnel de la comptabilité, serait chargée de prélever sur les recettes l'argent nécessaire aux besoins des 18 prostituées, des 5 hommes résidents, ainsi que l'argent courant géré par la cuisinière de l'équipe. Elle-même recevrait un salaire de 3 000 euros par mois et bénéficierait d'une liberté d'action conditionnelle dans la mesure de la parfaite exécution de son travail. Elle habiterait une des chambres de la villa et disposerait même d'une moto pour ses déplacements. La première tranche du contrat durerait 5 ans sans qu'elle puisse revenir en Ukraine. De toute façon, son passeport était confisqué et elle ne disposerait sur elle que d'une carte de séjour professionnelle renouvelable pour qu'elle soit en règle avec les autorités françaises. Elle n'avait pas le choix, puisque désormais, elle connaissait tout de l'organisation. Elle serait éliminée à la moindre rébellion ou à la moindre tentative de dénonciation. Oleg se leva en signe de conclusion de l'entretien, avant même qu'elle ait pu répondre. Il appela un des hommes de main. « Grégor, je te présente Olia, ma collaboratrice. Montre-lui sa chambre. » Olia, la bouche ouverte de stupeur, eut du mal à se relever de sa chaise, mais suivit le gorille muni de ses bagages jusqu'à une aile de la villa au premier étage. La chambre était assez grande, très claire, avec un grand lit, une armoire et un secrétaire. Un pouf et deux chaises complétaient l'ameublement. Une grande fenêtre encadrée de rideaux donnait sur un balcon à la vue magnifique sur la mer. Une belle salle de bain jouxtait la chambre. Grégor posa les bagages sur le lit et referma la porte sans un mot. Olia s'effondra sur le lit en pleurant en silence pendant un long moment. Elle était prisonnière du réseau. Mais elle pensa qu'elle avait encore dans son malheur la chance d'échapper au moins jusqu'ici à la prostitution de luxe. Elle songea immédiatement à s'évader et à retrouver sa petite fille et sa mère. Elle ravala ses larmes et décida de se battre en dissimulant sa détermination. Elle rangea ses affaires dans l'armoire et elle put vérifier à cette occasion que ses bagages avaient été soigneusement fouillés. Le téléphone intérieur sonna. Grégor l'appelait pour lui dire que le repas du soir était servi dans la salle à manger au rez-de-chaussée à 20 h. Il raccrocha aussitôt. Quelques instants après, on frappa à sa porte. C'était l'accompagnateur qui lui ordonnait de le suivre dans le jardin de la villa. Sa chambre était au fond du couloir. Aussi, pour arriver à l'escalier, ils passèrent devant la chambre de Grégor, la porte entrouverte, et qui surveillait ostensiblement les passages dans le couloir. L'accompagnateur ne prit la parole que lorsqu'ils furent arrivés vers le fond du jardin et assis sur un banc dominant la baie. La vue était extraordinaire, et le soir qui tombait enchantait ce décor de rêve. Les mille lueurs de Nice commençaient à étinceler en bas. Pourtant, ses mains tremblaient d'émotion et de rage contenue. « Mettons que je m'appelle Ivan. L'organisation compte sur vous. Il y a beaucoup d'argent qui passe, et on doit se méfier de tout le monde, naturellement. Vous devez donc surveiller et contrôler Oleg, comme Oleg doit vous surveiller et vous contrôler. Si vous constatez des détournements d'argent, vous n'aurez qu'à m'appeler au numéro suivant. Apprenez-le par cœur, avec défense de le noter. » Il lui donna son numéro de téléphone. Il poursuivit. « Pour les courriers que vous enverrez à votre famille, ils transiteront par l'organisation et on le leur remettra après contrôle. Inutile de vous dire que votre fille et votre mère servent de caution et de garantie à votre présence ici. Ne vous plaignez pas, vous êtes la mieux lotie de toute l'équipe. J'ai donné des consignes strictes pour que Oleg ou les gars ne vous importunent pas, mais... je ne vous conseille pas d'avoir des liaisons avec des Français ou des étrangers pendant votre séjour sur la côte. Par contre, si vous voulez imiter les filles de temps en temps à votre aise, à condition de ne pas leur faire de concurrence. Votre première mission est de garder le secret absolu sur nos activités, sur les filles ou sur l'équipe de surveillance, sinon vous m'avez compris. » Elle restait en silence, stupéfaite à la pensée qu'elle était prisonnière et que sa mère... et sa petite fille était prise en otage. Venons-en à l'essentiel. L'argent de la prostitution est ramassé tous les jours, par les aides, dans les deux immeubles où les filles habitent et travaillent. Il est ramené ici, dans un bureau de la villa, et il est partagé en deux tas. Oleg compte un tas, et vous, vous comptez le second. Vous notez sur un bordereau, puis vous vous échangez les tas et vous recomptez. Vous notez... et s'il y a une différence, vous recommencez l'opération. Puis, l'argent est placé dans le coffre-fort du bureau, dont seulement Oleg et vous avez la combinaison. Tous les 15 du mois, l'argent est sorti, mis dans une valise, et vous la portez avec Oleg et deux gars à la banque. C'est la BMCI en ville. Nous avons loué un coffre dans cette agence, et c'est vous. Et vous seul qui ferez signer au directeur de l'agence bancaire le montant de l'argent déposé et qui le placerez personnellement dans le coffre que vous ouvrira le directeur. Pendant que les deux hommes et Oleg resteront dehors pour vous attendre et vous surveiller. Et puis vous repartirez avec eux. Mais le coffre va être vite plein. Où passe ensuite cet argent? Curiosité professionnelle, je vois. Je ne peux pas tout vous dire, mais il vous suffit de savoir que le directeur de l'agence est en affaire avec nous, bien sûr. Vers la fin du mois, il sort l'argent du coffre, l'encaisse sur son propre compte, anonyme évidemment, puis émet un virement interbancaire vers une banque étrangère, où l'organisation peut le prélever sans problème. Le directeur se garde bien sûr une commission au passage. Et puis on recommence le mois suivant. Je vois. Il vide la tirelire, quoi. Et pour le fonctionnement des filles et de l'équipe? Eh bien, chaque mois, vous prélevez sur les recettes une somme forfaitaire et vous tenez en compte le fonctionnement. Bon, maintenant, je vous explique l'autre volet de votre mission. C'est à propos de la couverture commerciale de notre petite affaire. Nous sommes une société d'import-export et à ce titre, nous achetons en Turquie des vêtements de cuir de grand luxe par containers entiers. Nous les revendons à une société de Hambourg. Avec bénéfice, évidemment. À part que c'est toujours le même conteneur qui fait la navette entre Istanbul et Hambourg, puis qui revient de Hambourg à Istanbul. Les filles sont censées être des mannequins de haute couture pour la présentation des modèles à Nice et en Europe, ou bien pour des représentantes de commerce. Vous devez donc tenir la comptabilité de la société d'import-export au fur et à mesure des transactions bidons. Comme vous parlez très bien le français... vous assurerez la liaison avec les autorités fiscales ou douanières de France. Tous les papiers sont à l'agence et vous vous y retrouverez très vite. Le compte de la société d'import-export est évidemment ouvert à la BMCI. Et vous aurez la signature sur ce compte. Vous tiendrez les fiches salariales et toute la paperasse de la société. Vous avez bien compris ? Des questions ? Non, c'est clair. Et si j'ai un conflit avec Oleg, qui arbitrera ? Ah, ce sera moi. D'ailleurs, j'appellerai Oleg et vous, toutes les semaines. Tenez, voici un portable personnel. On se parlera évidemment en code. Si tout va bien, vous glisserez le mot « Odessa » dans la conversation. Et s'il y a problème, vous direz « Tchernobyl ». Et à part mon boulot, je suis libre d'aller et venir dans Nice et me distraire ? Oui, mais je vous conseille de ne pas faire d'imprudence, car vous serez surveillé, constamment. Vous devrez être à la villa à partir de 22h, sauf accord particulier avec Oleg. Il faut que j'appelle ma famille pour lui dire que je suis arrivé et que je vais rester longtemps. Je me sers de mon portable. C'est ainsi que Lia entra au service de l'organisation, il y a 2 ans déjà. Elle passa les premiers mois à apprendre tous les rouages de la société d'import-export. Et d'ailleurs, elle était très à l'aise dans sa charge de travail de comptable, puisque l'activité commerciale était particulièrement réduite et simplifiée. Pour la partie illicite de son activité, les choses se déroulaient aussi facilement que l'avait décrit le soi-disant Ivan. Compter l'argent de la prostitution ne prenait guère chaque jour qu'une heure en fin de matinée, et il n'y avait pour ainsi dire jamais de litige entre Oleg et elle. Pourtant, la méfiance et l'antagonisme entre eux étaient palpables. Elle ne pourrait jamais compter sur lui pour s'en sortir. Il la guettait et la faisait surveiller par Grigor, en espérant une faute de sa part, car il trouvait stupide qu'une fille comme elle, aussi séduisante, soit consacrée à des tâches de bureau et à compter de l'argent, plutôt que d'en faire rentrer. Mais elle était irréprochable, et Ivan la protégeait par ses appels hebdomadaires. Elle fut surtout très amusée par le petit jeu avec la BMCI, la banque, et le balai des liasses de billets qui allaient s'entasser dans le coffre de la salle du sous-sol. Le directeur de l'agence, Nicolas Sueur, chauve et rondouillard, se mettait à frétiller dès qu'il la voyait passer le sas de la banque. Régulièrement, tous les 15 du mois, elle arrivait avec sa petite valise et sa sacoche, et ils s'enfermaient tous les deux dans le petit bureau qui précédait la salle des coffres du sous-sol pour recompter les liasses de billets et signer le bordereau anonyme. Puis il la précédait dans la salle des coffres, refermait la grille derrière eux, ouvrait le coffre numéro 26, vide, le bourrait du contenu des bagages, tout en essayant de frôler le corps de la convoyeuse qu'il trouvait très appétissante. Derrière ses longs cils, elle le remettait en place d'un regard sévère et méprisant. Enfin, sur le trottoir de la banque, Grégoire l'attendait et le ramenait, bras dessus, bras dessous, jusqu'à la Mercedes, garée un peu plus loin. La routine, quoi. Mais une routine à plus de 250 000 euros par mois, frais déduits, et pratiquement pas de morte saison. La villa se situait dans le quartier nord-est de Nice, sur les hauteurs, qui dominait le double panorama magnifique de la baie de Villefranche. Chemin du Vinaigrier était un quartier très chic, plein de luxueuses villas à la piscine, avec des parcs superbes, à peine cachés par des bosquets, des murets, des clôtures et des grilles en fer forgé. En passant, on attendait le bruit des arroseurs automatiques et des tondeuses à gazon. La villa Kalinka, qui leur servait de QG, disposait évidemment d'une grande piscine et d'un parc très fleuri, mais mal tenu, ombragé de quelques pins maritimes. Toute l'enceinte de la villa et du parc était placée sous surveillance vidéo, qu'un des gars contrôlait en permanence. En plus des bureaux et de la salle à manger, la villa comprenait assez de chambres pour héberger les 5 hommes, Olia, Natacha la cuisinière et un hôte de passage. Il y avait en plus 2 chambres mansardées au 2e étage pour accueillir les prostituées qui, à tour de rôle, venaient régulièrement assurer l'astreinte des repos du guerrier de ces messieurs. Elle y séjournait 2 par 2 pendant 1 semaine. Ce qui les changeait de la routine du métier qu'elles exerçaient, chacune, dans un des petits studios des 2 immeubles situés un peu plus bas dans Nice. C'est là qu'elle ramenait les clients dragués dans les boîtes de nuit, les bars des grands hôtels, au casino, à l'aéroport, et dans les grands cafés de Nice ou des environs. Chacune de ses filles, magnifiques, et au fort type d'Europe centrale, entre 18 et 25 ans, disposait d'une petite voiture, d'un budget de représentation confortable, de très belles toilettes et de bijoux, et allait régulièrement chez l'esthéticienne et le coiffeur. Des poules de haut luxe, quoi. Les deux immeubles de studio étaient équipés d'une cuisine et d'une salle à manger commune où elle prenait les repas qui étaient préparés par la cuisinière quand elle ne mangeait pas en ville même. Olia n'allait jamais dans ces immeubles. Grégor et les trois autres gorilles se relayaient à la protection des filles et à la surveillance des lieux.
CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h.
Olia, peu à peu, apprit tous ces détails à l'occasion de conversations avec des prostituées ukrainiennes venues à la villa pour leur service interne. 6 mois après son arrivée, au cours de promenade dans le jardin de la villa, Olia se prit d'amitié pour une des filles, Niki, une superbe compatriote de Kiev, plus très jeune et proche du désespoir, minée par la certitude qu'elle ne reverrait plus sa famille et qu'elle finirait malade, alcoolique ou droguée dans un bas-fond de Hambourg ou de Belgrade. Olia en eut les larmes aux yeux. Quand elle eut la certitude qu'elle pouvait lui faire confiance, Olia chercha à savoir pourquoi n'essayez pas de s'enfuir et de demander l'asile à la France. Devant tant d'innocence, Nicky eut un rire amer. Parce que, à toi, on a laissé le passeport ? Non, évidemment, mais alors ? Ben, si tu te présentes sans passeport aux autorités et que tu les dénonces, c'est toi que l'organisation accusera de proxénétisme et c'est toi qui seras expulsé. Et puis, éliminé, à peine arrivé à l'aéroport de Kiev. J'ai une amie à Paris. On faisait ensemble le même boulot qu'ici. Elle a essayé de s'enfuir et ça a fini comme ça. Par contre, si on pouvait remettre la main sur nos passeports, ça changerait tout. On sauterait à l'aéroport et à nous la liberté. Tu crois qu'ils sont ici entre les mains de Grégor ou d'Oleg, ces passeports ? J'ai fait parler Oleg une fois au lit. Et il m'a confié que ces passeports sont dans une mallette, à l'abri, dans un coffre de la banque. Et tu crois que toutes les filles sont dans le même état d'esprit ? Que si elles pouvaient récupérer leurs passeports, elles partiraient instantanément ? Olia, j'en suis certaine, elles partiraient toutes au même instant. Il n'y en a pas une qui reste ici de son plein gré. Olia ne répondit rien, toute pensive et pleine de sentiments de haine et de vengeance. La mallette des passeports, dans un des coffres, peut-être juste à côté de la tirelire de l'organisation. Olia la réconforta comme elle put, mais un des sbires se promenait non loin dans le parc et elles furent obligées de se quitter. À part Nicky, Olia se rapprocha de la cuisinière, Natacha, la seule femme dans ce groupe. C'était une femme de 50 ans, une paysanne très active et qui se démenait en cuisine et à la buanderie au service de toute l'équipe pour pouvoir envoyer l'essentiel de sa solde à sa famille restée en Ukraine. Finalement, à part les Saint-Bourdon parasites, Natacha et elle avaient une vue relativement agréable, malgré l'exil et la contrainte permanente d'une sanction terrible en cas de révolte. Olia disposait de temps libre, un moyen pour se déplacer et pour profiter de ce pays si merveilleux qui était devenu malgré tout son enfer quotidien. Le seul problème était qu'elle était prisonnière d'une chape de silence et d'isolement et qu'elle pouvait tout juste de temps en temps téléphoner à sa fille et à sa mère pour leur donner de fausses nouvelles, toujours rassurantes. Elle ne verrait pas sa fille grandir jusqu'à son adolescence. C'était terrible. Et cette pensée la mettait dans des états dépressifs pendant de longues journées. Son seul soulagement était qu'elle leur procurait des conditions matérielles inespérées. Elle aurait bien aimé passer quelques semaines à Kiev pour les retrouver. Mais elle savait qu'une nouvelle séparation serait impossible et qu'elle signerait l'arrêt de mort de l'une des trois. Elle préférait donc patienter et mûrir un projet d'évasion en les mettant toutes les trois à l'abri. Elle avait beau retourner dans sa tête toutes les solutions possibles, aucune n'était réalisable. Elle décida de patienter et d'attendre une occasion propice, car son heure viendrait, elle en avait la certitude. En attendant, elle se constituait une cagnotte secrète pour faire face à toute éventualité. Elle se comportait aussi de façon irréprochable avec les hommes du groupe, les maintenait à une distance courtoise et réservée, tout en tâchant d'acquérir leur vague sympathie pour mieux endormir leur vigilance quand le moment viendrait. Il fallait vivre malgré tout, vivre et espérer. Elle s'aménagea une discipline de vie pour ne pas tourner en rond dans sa chambre ou au bord de la piscine. C'est ainsi que, ses travaux de comptabilité finis, avec des cartes routières, elle se mit à sillonner la région sur sa moto pour profiter de ce pays exceptionnel. Elle parcourait la côte et l'arrière-pays, aussi loin que lui permettait la contrainte de rentrer le soir à la villa. Une petite Audi noire n'était jamais bien loin au premier temps de ses escapades à moto. Mais la surveillance se relâcha, ça ne voulait rien dire. Peut-être était-il plus discret désormais. Elle pratiquait beaucoup la bibliothèque municipale de Nice pour parfaire son français lu et écrit. Elle copia les tenues vestimentaires de son âge, leurs comportements et leurs attitudes pour pouvoir visiter les villes et la côte sans être immédiatement repérée comme une étrangère. Elle était assidue à la télé française et fréquentait souvent les cinémas pour se familiariser avec les subtilités du français ou du langage familier. Mais comme elle ne parlait presque à personne, sauf chez le coiffeur, le buraliste ou l'épicerie, elle n'arrivait pas à perdre la délicieuse pointe d'accent slave qui agrémentait son pur français. Elle faisait de gros progrès, mais sans pouvoir l'évaluer. C'était une excellente nageuse qui s'appliquait à effectuer une heure de crawl tous les matins dans la piscine, en se moquant pas mal des regards gluants des gorilles depuis les fenêtres de la villa. Mais quand elle comprit que Grégor avait choisi de se baigner lui aussi à la même heure qu'elle dans la piscine, elle décida de s'inscrire dans un club de natation de Villefranche pour avoir la paix et rencontrer enfin des personnes ordinaires.
Je suis morte de rire et je ne me souviens pas pourquoi. Achevé par le HIV, je suis morte du sida. Je suis morte de faim, je suis morte de faim, papier noyé d'identité. Je suis morte de froid, un soir d'hiver, je n'avais pas de toit. Je suis morte d'un rien, morte de jalousie, je ne sais pas comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Je suis morte d'être noire, je suis morte d'espoir, je suis morte d'être moi. Je me suis suicidée, c'était une simple idée. Il m'a assassinée. Je suis morte d'amour, capote oubliée. Je suis morte décapitée. Accident de vélo, tombée dans l'escalier. Je suis morte crucifiée. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Je suis morte torturée, je suis morte d'oubli, je suis morte dans mon lit. Je suis morte d'une overdose, je suis morte de froid. J'ai mouru à 3 ans, je suis morte d'une bavure, je suis morte d'une bravoure, je suis morte d'effroi. Je suis morte au combat, je suis morte lapidée, je suis morte violée là. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Je suis morte Tchernobyl. Je suis morte vache folle. Je suis morte de honte. Je suis morte solitaire. Je suis morte à la guerre. Je suis morte en faisant la paix. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire. Comment mourir sur cette terre. Encore un luxe supplémentaire.
Pourquoi Serge, le minable rocker amateur, pensait-il à Olia, la belle ukrainienne prisonnière du réseau de la bande à Oleg? Comment l'a-t-il connue? C'est ce que vous saurez en écoutant le prochain épisode de Coup double, le nouveau roman d'Edgar Dorcé, sur CFM, le mardi à 22h et le dimanche à 15h. Vous pouvez aussi réentendre cet épisode sur le site de cfmradio.fr, à la rubrique « Lecture pour vous ». Les illustrations musicales de cet épisode étaient de Barbara, si la photo est bonne, la Sicilienne pastorale de Nino Rota et Je suis morte par Orlando. Joan, qui était à la mise en onde, et Fernand vous disent au revoir pour la prochaine émission de Lecture pour vous sur CFM.